أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de gré, le plus complet, le plus parfait, soit accordé à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, alayhi wa sallam, il a dit, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc la science de la religion permet de connaître les règles de la religion comme il faut pour s'y conformer, bien sûr, et ne pas les dépasser. Et donc parmi ces règles-là, c'est que les prophètes, ils sont véridiques, tous, sans exception, et Dieu les a appuyés par des miracles. Donc les miracles, donc vous avez vu, c'est quoi? C'est une chose extraordinaire, déjà. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas d'ordinaire. Donc c'est pas une chose impossible, c'est une chose extraordinaire. Mais c'est une chose possible rationnellement. Parce que certains, ils peuvent faire l'amalgame, parce que l'impossible ne peut pas exister. L'impossible, c'est l'absurde. Quelque chose, par exemple, ça c'est enseigné dans les cours, donc jugement impossible rationnel. Là, par exemple, un objet ne peut pas être mouvement immobile à la fois. La réunion de deux choses opposées est impossible. La partie d'une chose ne peut pas être plus grande que toute la chose. C'est une impossibilité rationnelle. La moitié de deux, ça peut, c'est impossible que ce soit plus grand que deux. Mais ce que font les miracles des prophètes, c'est tout simplement extraordinaire. Ça n'arrive pas d'ordinaire. Mais c'est possible rationnel, bien évidemment. Par exemple, d'ordinaire, et ben, donc, le feu, il brûle. C'est une habitude. Ce n'est pas une nécessité rationnelle. Quand il brûle bas, on dit qu'il est, c'est extraordinaire. C'est en dehors de ce qui est habituel. Mais le feu, c'est un corps. Il admet d'être chaud ou froid. C'est, qu'est-ce qui lui est spécifié par le fait d'être chaud ou froid ou, donc, ben, c'est Dieu qui spécifie les corps par des caractéristiques ou d'autres. Donc, le fait que le feu n'a pas brûlé, c'est Ibrahim, on dit que c'est une chose extraordinaire. Et comme ça arrive sur le main d'un prophète qui appelle à croire en Dieu, il dit qu'il est envoyé de Dieu, donc on dit que c'est un miracle. Miracle, donc c'est pour les prophètes. Parce que la même chose extraordinaire peut arriver, certaines choses extraordinaires, ça peut arriver aussi, on dit, des gens vertueux qui suivent correctement les prophètes. Dans ce cas, on dit prodige, karam. Et miracle, c'est mu'ajiza. Donc certains, ça arrivait aussi, ça n'a pas brûlé, d'autres gens qui n'étaient pas des prophètes, mais qui étaient des bons musulmans. Ça arrivait, par exemple, Abu Mas'ud al-Khawlani, qui était un bon musulman, quand ils l'ont mis dans le feu, c'est un certain mécréant, ben le feu ne l'a pas brûlé. C'était quelqu'un, des gens qui suivaient quelqu'un qui s'est dit prophète. Et lui, il a dit, moi, je ne crois pas en toi, t'es menteur. Et pour, il voulait le punir, il l'a mis dans le feu, mais le feu, il ne l'a pas brûlé. Et Saïd Omar, il l'a vu, il l'a embrassé. Et il a dit que Dieu a accordé à quelqu'un de la communauté de Muhammad, alayhi ce qui est semblable à ce qu'il a accordé à Ibrahim, qui est le meilleur prophète après Sayyidina Muhammad, alayhi salam. Donc c'est bien de comprendre que c'est quelque chose de possible, rationnel. La lune s'est divisée en deux pour le prophète. La lune, c'est un corps. Ça admet une partie, deux parties, trois parties. Donc, le fait qu'il s'est divisé, c'est extraordinaire. C'est en dehors de l'ordinaire. Il s'est dit dans le Coran, et des gens au loin, ils ont vu cela. En fait, les miracles, c'est pour montrer, pour appuyer les prophètes, pour dire qu'ils sont véridiques. Vu qu'ils sont appuyés par Dieu, donc ils sont véridiques, parce que Dieu n'appuie pas, ne confirme pas celui qui est menteur. Donc les prophètes, ils ont eu des miracles, et c'est rationnellement, ça oblige de croire en eux. Ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont assisté, et ceux qui n'ont pas assisté comme nous, c'est transmis de génération en génération. Ça arrive de source sûre, par chaîne de transmission, de beaucoup de gens qui ont vu, qui ont transmis à d'autres, qui ont transmis à d'autres. Donc ça c'est une catégorie de la connaissance, donc catégorique. source de connaissances catégorique, c'est la nouvelle rapportée par plusieurs gens qui ont transmis à d'autres gens et qui s'appuie sur l'audition ou la vision, sur la perception sensorielle directe. Comme de croire que tel roi, tel royaume a existé, tel roi, tel dirigeant ancien a existé. Beaucoup de gens, ils y croient sans avoir vu. Et bien là, les prophètes, c'est ce qu'on appelle la nouvelle mutawat, la nouvelle véridique, transmise de génération en génération. Ils ont vu, par exemple, vous avez vu que l'eau est sortie entre les doigts du prophète, il y avait 1500 personnes. Donc, et puis qu'ils ont transmis à d'autres, qui ont transmis à d'autres. Donc les miracles des prophètes, c'est des choses possibles, mais extraordinaires, qui n'arrivent pas d'ordinaire. Donc, miracle très connu, Sayyidina Moussa, quand il a frappé la mer avec son bâton, l'eau s'est divisée en 12 chemins. D'habitude, l'eau, bah, il ne se met pas en montagne. L'eau, bah, il se met toujours à plat. Le fait qu'il se mette en montagne, c'est extraordinaire. Mais c'est une possibilité rationnelle. L'eau, il peut être, il admet telle forme ou telle autre. C'est un corps, il peut être de telle forme ou telle autre. Sayyidina Isa, il réveille les morts par la volonté de Dieu. Donc le mort, ben, il n'existait pas, Dieu l'a fait exister, la personne, puis Dieu l'a fait mourir, et Dieu peut la faire renaître, la faire mourir, donc la faire passer d'un état à un autre. Donc tout ça, c'est par la volonté de Dieu. Donc c'est ça les miracles, pour bien comprendre la notion de miracle. Donc ça s'appelle miracle quand ça arrive sur les mains des prophètes. Et que ça s'appelle prodige quand ça arrive sur les mains des vertueux qui suivent les prophètes correctement. Parmi les gens qui suivent les prophètes, généralement, il y a des saints. De l'époque de chaque prophète, il y avait des bons musulmans pratiquants qui atteignent le degré de vertueux. Vertu, ils deviennent vertueux, saints, c'est-à-dire des musulmans qui font tous les devoirs, qui évitent tous les interdits, ils font les obligations correctement et ils multiplient les œuvres qui ne sont pas obligatoires, surrogatoires. Ils deviennent des vertueux. Dieu peut leur accorder des choses extraordinaires. Comme c'est cité dans le Coran, c'est la Mariam, qui n'était pas prophète, mais était une bonne musulmane, pratiquante, qui est la mère de Isa. Et parmi ses prodiges, donc elle avait des fruits d'hiver en été, des fruits d'été en hiver. Sans qu'il y ait de frigo à l'époque, bien sûr. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Où il y avait, qui citait un autre bon musulman, de l'époque de Sayyidina Sulaiman, et il a dit qu'il me ramène le trône de Bilqis, donc la reine, une reine d'une région du Yémen, citée dans le Coran. Et un bon musulman lui a ramené en un instant, alors qu'elle était dans une terre lointaine. C'était un grand trône. Et c'est cité dans le Coran. Il y avait un ifrit, un djinn, il a dit, moi je te le ramène. Avant que tu t'élèves de ton assemblée. Et le bon musulman, lui, il a dit, on a un clin d'œil, il y en a quasiment. Je te le ramène. C'est-à-dire, le bon musulman pratiquant, il était plus fort, on va dire, que le grand djinn. Parce qu'Ifrit, c'est les grands djinns. Qala Ifrit min al-jinn. Le grand djinn s'appelle Ifrit. Parce que les djinns, ils étaient au service de Sayyidina Sulaiman. Dieu lui a donné le pouvoir sur eux. Et Dieu nous montre que l'importance de la pratique, que le bon musulman, il était Qala alladhi 'indahu 'ilmun bil kitab. C'est-à-dire, celui qui avait la connaissance du livre. C'est-à-dire, ça montre aussi ici, les versets nous montrent des choses. C'est que la voie pour être dans les hauts degrés, c'est connaître et pratiquer. Connaître et pratiquer le livre, c'est quoi? C'est ce que Dieu a révélé. Pas n'importe quel livre, c'est le livre que Dieu a révélé, la loi de Dieu. Connaître la loi de Dieu, il l'appliquer. C'est ça la voie de sauvegarde. C'est connaître et pratiquer correctement. C'est pas appliquer comme ça selon bon nous semble, selon les passions. Et donc, la précision sur les miracles des prophètes. Et c'est des choses qui ont existé, réelles, et qui sont confirmées par la nouvelle véridique rapportée par plusieurs gens qui ont transmis à d'autres. Et parmi ces miracles, il y a le voyage nocturne, l'Isra, le Mi'raj. Il est cité dans le Coran aussi. C'est un miracle très connu du prophète, alayhi salam. Donc c'est un devoir de croire en cela, bien sûr. Le voyage nocturne, l'Isra, est confirmé par le texte du Coran et du hadith sahih. Il est un devoir de croire que Allah l'a fait voyager, a fait voyager le prophète, alayhi salam, en une partie de la nuit, de Mecca à la mosquée Al-Aqsa. Donc il y a deux parties du miracle. Ça commence avec le voyage, c'est une monture étonnante du paradis qui va très vite de la Mecque à Jérusalem. C'est un miracle parce que c'est en peu de temps. Il a voyagé de la Mecque à Jérusalem, ensuite il est monté dans les cieux, il est revenu avant l'aube à la Mecque. Donc c'est bien sûr quelque chose de possible, rationnel. Dieu Tout-Puissant, de faire passer quelqu'un d'un endroit en autre en un instant. C'est possible, rationnel, bien sûr, ça. Donc, le voyage nocturne et l'Isra, c'est l'ascension, le Mi'raj. Donc, l'Isra, c'est le voyage nocturne et le Mi'raj, c'est l'ascension, a été confirmé par le texte des hadiths. Et donc, c'est quoi? C'est le prophète, il a voyagé dans les cieux. À travers les sept cieux. Les sept cieux sont espacés les uns des autres de 500 ans. Il y a sept cieux, il y a sept terres. Celle-là, c'est la première. Et il y a le premier ciel, deuxième, etc. Et c'est des corps solides, les cieux. En fait, ce n'est pas juste de l'air, le ciel. C'est très haut, le ciel, le premier ciel. Donc, une distance de 500 ans. Et une épaisseur, chaque ciel, une épaisseur de 500 ans. Ils ont des portes. Et le prophète, il a voyagé à travers ces cieux-là. Pourquoi? En fait, le but, c'est quoi à retenir? C'est pour honorer le prophète pour qu'il voit les choses étonnantes du monde céleste. Il a vu des anges, il a vu l'ange gardien de l'enfer, l'ange Djibril sous sa véritable apparence, l'ange gardien du paradis, etc. Donc, il a vu des choses étonnantes du monde céleste. Et il a vu des prophètes aussi qu'il a rencontrés dans les cieux. Il a vu le grand arbre, il sera vu dans le détail du cours, le grand arbre. Et bien sûr, il faut croire que Dieu, il n'a pas besoin des cieux ni de la terre. Donc il n'est pas permis de croire qu'il aurait rencontré Dieu quelque part. Ça s'appelle du shirk, c'est assimiler Dieu à ses créatures, bien sûr. Parce que celui qui est localisé, quantifié, c'est une créature qui a besoin de qui l'a spécifié par cette quantité, par cette localisation. Le besoin contredit la divinité. L'islam est la seule religion conforme à la raison. Parce que la raison confirme que tout ce qui a une forme, une quantité, une localisation a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. Donc, Dieu existe sans endroit, sans comment. Il existe avant l'espace, le temps. Il n'a pas besoin de l'espace ni du temps. Donc, il est monté et il a vu des choses étonnantes lors de son voyage. Donc alors, quant à l'ascension, al-Mi'raj, elle a été confirmée par le texte des hadiths. Mais dans le Coran, il n'y a pas de texte y faisant référence qui soit explicite et qui n'accepte aucune interprétation. Il y a cependant, à son sujet, ce qui constitue un texte quasi explicite. Ainsi, le voyage nocturne a été cité dans sa parole, Ta'ala, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Qui signifie, il est exempt de toute imperfection, de toute imperfection. Subhanallah, ça veut dire l'exemption de Dieu de toute imperfection. Il est exempt de toute imperfection, celui qui a fait voyager son esclave en une partie de la nuit de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours pour lui montrer certains des grandes manifestations de notre puissance. Donc la mosquée Al-Aqsa, ça a été appelée Masjid. Pourtant, ça a été construite avant le prophète Mohammed, alayhi. Donc ça veut dire que les mosquées existaient avant. Ce qui a été dit, c'était construit par le prophète Adam, alayhi salam, après avoir construit la Kaaba, 40 ans après. Elle a été reconstruite. Et là-bas, Dieu lui a fait réunir tous les prophètes. Il les a dirigés dans la prière pour montrer que c'est le meilleur prophète Et ils ont tous la même religion qu'est l'islam, la seule religion que Dieu a révélée à tous les prophètes. Donc il les a donc dirigés dans la mosquée Al-Aqsa, donc, qui existe actuellement, donc en Palestine. Donc, voilà, il y a certains détails maintenant. Bien sûr, c'était à l'état d'éveil. Donc, la majorité des savants ils disent que c'était à l'état d'éveil, bien sûr. C'était pas en rêve, c'était à l'état d'éveil. Et c'était sur une monture, en fait, une monture du paradis, qu'il utilisait Saïdina Ibrahim aussi pour voyager entre Palestine et la Mecque, parce qu'il avait sa femme Sarah, son fils Ishaq en Palestine. Il avait son fils Ismaïl et sa mère, la mère d'Ismaïl qui était Hajar, à la Mecque. Donc il avait deux enfants, puis il voyageait donc avec le Bouraq, qui est une monture du paradis, qui est une monture étonnante, qui met son pas là où atteint son regard. Donc si quelqu'un alors dit, donc c'est des détails là, sur la ayah du Coran, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa, qui signifie il, certes il l'a vu une seconde fois, c'est-à-dire il a vu Jibril, parce qu'une fois il a vu Jibril la première fois. Donc Jibril souvent est venu au prophète avec l'apparence de quelqu'un, les anges ils peuvent prendre l'apparence d'homme sans organe mâle, et une fois il l'a vu avec la vraie apparence, avec 600 ailes, et le prophète donc, donc tellement c'était immense, le prophète s'est évanoui. Et après Jibril a repris l'apparence de quelqu'un, il a serré le prophète. Et là, une deuxième fois, dans les cieux, il l'a vu. Et là, donc, parce que entre temps, le cœur du prophète a été, donc avant l'Isra, il a été lavé avec l'eau de Zamzam, etc. L'ange Jibril l'a ouvert son cœur pour qu'il supporte de voir les choses étonnantes du monde céleste. Donc c'est des choses étonnantes. Et donc, il a vu une deuxième fois. Donc le verset dans le Coran, il dit qu'il l'a vu une seconde fois. Alors les savants, ils ont dit, si quelqu'un il dit, ça peut admettre qu'il s'agit d'une vision dans le rêve. Alors là, en fait, l'auteur, il profite pour montrer une règle religieuse. C'est quoi cette règle religieuse? C'est c'est qu'on ne peut pas interpréter. Il y a une règle religieuse qui montre un juste milieu dans la religion. Dans la religion, les textes du Coran et du Hadith, on va les prendre selon le sens apparent, sauf s'il y a quelque chose qui nécessite d'interpréter. C'est quoi cette chose qui nécessite d'interpréter? C'est ou une preuve catégorique selon la raison, ou un texte rapporté, confirmé, pour faire cette interprétation, qui inciterait à faire cette interprétation. Donc c'est une règle logique, en fait, de comprendre, c'est que le texte, on le prend selon le sens apparent, sauf si il y a un autre texte qui montre qu'on ne peut pas prendre le sens apparent, il faut interpréter. Il y a un contexte, il faut qu'il montre qu'on ne peut pas prendre le sens apparent. Ou il y a une preuve rationnelle qui montre que le sens apparent, ben, ça contredit la raison, il ne peut pas être pris. Donc, pour faire comprendre, si on dit en français « jette un œil », bon, là, le contexte de discussion montre que ce n'est pas le sens apparent, ce n'est pas « jette un œil », mais ça veut dire « va regarder ». Donc, c'est ça l'interprétation, si on délaisse le sens littéral pour un sens figuré. Ça, on ne fait pas tout le temps. Parce que pourquoi? C'est important de savoir, c'est la voie sunnite, c'est la voie du juste milieu. Ce n'est pas comme certaines sectes, comme les Mu'tazila, ils vont toujours interpréter sans raison. Toujours, ils vont dire, ah, il y a un sens autre. Non. Quand le texte, il est clair, il est clair. Comme par exemple, quand un texte, harrimat alaykum baytatu waddamu lahmul khinzir, c'est-à-dire, c'est interdit le porc, le sang, de consommer le sang, et ce qui n'est pas égorgé aussi. Donc là, on prend ce qui est apparent. On ne va pas interpréter le texte, il est clair. Ou walakal rasul Allah wa khatam an-nabiyyin, c'est-à-dire le prophète, il est dernier des prophètes. Khatam an-nabiyyin, c'est le dernier des prophètes. Et certains sectes, ils vont interpréter le sujet clair. Non, on n'interprète pas, sauf il faut une règle pour interpréter. C'est que si le sens apparent, c'est pas logique. Le sens apparent, il faut interpréter. Par exemple, le verset, comme l'imam Bukhari l'interprète, Kullu shay'in halikun la wajha. Il y a le mot wajha. Le mot wajha, il peut admettre le sens de visage, d'autres sens. Il a dit ici, quand ça parle de Dieu, c'est impossible que ce soit le visage, le sens, parce que Dieu est exempt du visage, des organes. Il a dit ici, le Bukhari, ça veut dire la souveraineté de Dieu, en fait. Le mot wajha veut dire mulk, souveraineté. Donc c'est ça une règle importante dans la religion, dans les fondements dans la religion, c'est que on interprète le texte clair que s'il y a ce qui pousse à l'interpréter, un autre texte, parce que, pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec un autre texte, parce que les textes, ces textes religieux, c'est quoi? C'est le Coran et le Hadith, ne se contredisent pas. Il faut qu'un texte confirmé, bien sûr. Un Hadith sahih, par exemple, un verset du Coran, ça c'est confirmé. Quand un sens apparent il contredit l'autre sens d'un autre verset, donc là, il faut interpréter pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Bien sûr, la règle, c'est que les textes religieux ne se contredisent pas et ne contredisent pas la raison. Ça, c'est une règle catégorique. Donc, c'est impossible qu'il n'y ait pas un texte religieux qui contredit la raison. Parce que la raison, c'est un témoin de la religion. Et c'est dit dans le Coran, d'ailleurs. Donc, vous avez vu, dans Surat al-Mulk, les gens de l'enfer, il est cité وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc la raison est un témoin. Donc là, il dit qu'il a vu une seconde fois auprès de l'arbre, Sidratul Muntaha, le jujubier de l'extrême. Et cet arbre-là, il est cité qu'il est dans le sixième ciel. Si le texte d'apparence, il dit qu'il est auprès du paradis. Ça veut dire que le prophète, il était là-bas, forcément. Donc on ne peut pas dire, ah non, mais peut-être c'est un rêve. Donc on ne peut pas interpréter, il n'y a pas de raison d'interpréter. Donc, voilà. Comme il a dit, à ce qu'a dit Al-Razi dans Al-Mahsoul, un livre, et d'autres lui, parmi eux, parmi les savants de la science des fondements de la religion. On n'interprète pas un texte clair, sauf s'il y a un autre texte confirmé qu'il pousse ou une preuve rationnelle. Et ça, c'est même dans le hadith. Les grands spécialistes du hadith, ils sont unanimes. Si un hadith il est rapporté, il est confirmé. S'il a un sens apparent qui contredit la raison, il faut nécessairement l'interpréter par un autre sens. Il ne peut pas être confirmé et il n'a pas de sens autre que le sens apparent qui contredirait la raison. Ça ne peut pas être comme ça, ils ont dit les grands savants de la spécialité. Ou le hadith il est confirmé, il a un sens qui ne contredit pas la raison, ou il a plusieurs sens, le sens premier contredit la raison, il faut passer par le second sens, l'interpréter. Et ça, il y en a beaucoup d'exemples comme ça, bien sûr. Et donc, le musulman rapporte d'après Anas ibn Malik, Allah l'agré, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a un hadith là, il dit « Utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghli yadau hafirahu inda muntaha tarfihi » فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء. Donc dans ce hadith là d'après Malik de Anas ibn Malik, il dit ce qui signifie, on m'a amené le bourar, qui est une bête blanche, haute de taille intermédiaire entre l'âne et la mule, et qui pose son sabot à l'extrémité de ce que sa vue atteint. Je l'ai monté jusqu'à arriver à Beitul Maqdis, Jérusalem, et je l'ai attaché à l'anneau auquel les prophètes attachent leur monture. Il a dit, ensuite je suis entré dans la mosquée et j'ai accompli deux rak'ah, et je suis sorti, Jibril alayhi salam m'a présenté un récipient contenant du khamr. Ici, boisson délicieuse du paradis, en fait. Parce que Dans le Coran, la boisson délicieuse du paradis, elle est appelée khamr. Mais le mot khamr, en arabe, peut désigner le vin aussi. Donc, fais attention. C'est pour cela, la religion, on a besoin de la transmission. Quelqu'un qui lit tout seul des livres, il va comprendre que Djibril va ramener du vin. Donc, certains, ils vont traduire, ils battent la traduction, en fait. Parce qu'ils gagnent de l'argent avec les livres. La plupart, ils font les livres pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour transmettre la religion correctement. Donc, ici, khamr, ça désigne la boisson délicieuse du paradis. C'est dit dans le Coran, il dit Dieu, dans le Coran, nous avons qu'il y a une boisson qui s'appelle khamr, qui est délicieuse. Et en arabe, ça désigne le vin, mais ici, ça parle bien du boisson délicieuse du paradis qui n'enivre pas. Lui ramener cette boisson-là et un autre contenant du lait. Alors, il a choisi le lait, le prophète. Jibril alayhi salam m'a dit, tu as choisi de t'attacher à la religion. Il a dit, puis il nous a fait monter au ciel. Jusqu'à la fin du hadith. C'est un long hadith en fait. Ça, c'est une partie. De plus, dans ce hadith, il y a une preuve que le voyage nocturne et l'ascension ont eu lieu dans une même nuit. Parce qu'il dit, puis on est monté dans les cieux. Parce qu'il y a le voyage nocturne, qu'il a voyagé de la Mecque à Jérusalem. Après, il est monté dans les cieux en une seule nuit, donc c'est un miracle. Par son âme et son corps, à l'état d'éveil. Puisque personne n'a dit qu'il est arrivé à Baitul Maqdis, puis il s'est endormi. Donc, il n'y a aucun, donc on prend ce qui est apparent. Il n'y a aucun texte qui montre qu'il s'est endormi et que c'était juste un rêve. Donc, c'est confirmé. Et parmi ce qu'il a eu, le prophète, alayhi salam, la vision qu'a eue le messager de son Seigneur par son cœur et non par ses yeux durant cette nuit. Donc, et il a vu le prophète, il a vu Dieu par son cœur. Donc, une vision, dans cette vie, il y avait cité que Moussa, il a demandé de voir Dieu. Donc, tous les grands savants, ils ont dit, si Moussa, il demande de voir Dieu, c'est quelque chose de valable et d'acceptable. Parce que les prophètes, ils sont intelligents. Ils ne posent pas des questions bêtes. Ils n'ont pas posé des questions bêtes comme certains. Ils prétendent que Moussa, il aurait dit à Dieu, est-ce que tu dors? Ça, c'est une mécréance. Aucun prophète ne pose des questions stupides à Dieu. Donc, quand il a demandé à Dieu de le voir, ça veut dire que c'est valable de voir Dieu sans comment, sans direction, pas comme sont vues les créatures. Parce que c'est une simple habitude, comme on l'a vu tout à l'heure. Le feu, il brûle, c'est pas une nécessité rationnelle, c'est une simple habitude. Et qu'on voit, par exemple, nous on voit avec les yeux, c'est une simple habitude. On voit avec les yeux, il faut la lumière, sinon tu vois pas. Il faut être devant là, ce que tu vois. Tu vois proche ou loin, une quantité grande ou petite. C'est une simple habitude de voir comme ça. Dieu a fait que l'habitude de voir comme ça. Par exemple, le prophète, il voyait Djibril, les gens autour, ils ne voyaient pas. Ou celui qui va mourir, il voit l'ange de la mort et les gens à côté, ils ne le voient pas. Et donc, la vision, c'est une force que Dieu donne. Et ça ne nécessite pas l'émanation d'un faisceau lumineux, ni une direction, ni un organe particulier. C'est simplement des habitudes de voir avec ces conditions-là. C'est une simple habitude, ce n'est pas une nécessité rationnelle. C'est pour ça que les grands savants sunnites, ils confirment le plus grande félicité des gens du paradis, c'est qu'ils voient Dieu. C'est dit dans le Coran. Ils vont voir les gens du paradis, ils verront Dieu sans direction, sans quantité, sans localisation, pas comme sont vues les créatures. Ça, c'est ce qu'ils aiment le plus au paradis. Donc, comme Moussa, il a demandé à Dieu de le voir, c'est-à-dire c'est valable. Mais Dieu ne lui a pas accordé cela. Et donc, le prophète, il a vu Dieu avec son cœur, pas avec ses yeux. La vision, c'est Dieu qui donne. Dieu a donné la force à la montagne, elle a vu Dieu. La montagne où il y avait Moussa, elle s'est fissurée. Pas comme sont vues les créatures, parce que Dieu n'est pas concerné par l'espace-temps. Donc la vision ne nécessite pas un endroit, une quantité. La condition d'être vu, c'est d'exister. Et Dieu, il existe, donc il est vu. Mais il existe sans quantité, sans direction. Rien n'est tel que lui, on ne peut pas atteindre sa réalité. La foi, c'est que tu reconnais que tu es incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Comme c'est dit dans le Coran, « Wa la yuhituna bihi ilma ». Il ne cerne pas sa réalité. Donc, le prophète Tabarani rapporte dans son Mu'jam al-Awsat, c'est un des savants du hadith, Tabarani, avec une forte chaîne de transmission remontant à Abdullah, fils de Al-Abbas, que Allah les agrée tous les deux, qu'il a dit, Muhammad vit son Seigneur par deux fois. De même, Khuzaym a rapporté avec une chaîne de transmission, Muhammad a vu son Seigneur. Ce qui est visé est qu'il l'a vu avec son cœur. Pour preuve, le hadith de Muslim citant la parole d'Ibn Abbas rapportée par Abu al-Aliya à propos de sa parole Ta'ala, ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa la qad ra'ahu nazlatan ukhra. Ce qui signifie le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit, et pourtant il l'a pourtant vu aussi en une autre occasion. Il a dit, il a vu son Seigneur par son cœur deux fois. Donc la majorité des savants sunnites, des compagnons, ils confirment qu'il a vu Dieu par son cœur, pas comme, donc bien sûr, pas avec ses yeux. Il a vu Dieu par son cœur, et les croyants au paradis, ils verront Dieu avec les yeux éternels de l'au-delà, sans commence, sans direction, comme a dit lui-même Abu Hanifa. Il n'est pas permis d'une, comme ils font certains sectes mu'tazilites, ils nient la vision de Dieu, comme ils nient les attributs de Dieu, et ne pas aussi d'être, de ne pas croire et adhérer à ce que font les, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, où il attribue à Dieu la quantité et la localisation. Donc, comme on l'a dit pour l'interprétation, c'est pas le Mu'taz, ils interprètent tout le temps, et c'est pas les extrémistes, les wahhabites, ils vont renier l'interprétation du tout, ils disent on prend tout au premier sens, et ils assimilent Dieu à ses créatures. Ils se contredisent d'ailleurs, ils interprètent certaines choses et d'autres non, selon leur croyance, la croyance à laquelle ils adhèrent, mais sans se référer à des règles précises. À savoir que le Coran, le Hadith ne contredisent pas la raison, et que les versets ne se contredisent pas, et puis ce qui est impliqué par la raison et le Coran, c'est que Dieu ne ressent pas ses créatures, n'est pas concerné par l'espace, la quantité, la direction, le changement, les organes. Donc voilà ce qui est parmi les choses qui sont arrivées au prophète, alayhi salatu wassalam, voir Dieu par son cœur et pas avec ses yeux. Donc on doit prendre cela, et comme on a dit, ce qui est visé en résumé du voyage nocturne de l'ascension, c'est honorer le prophète, nous montrons les choses étonnantes du monde céleste, et il a eu la révélation de l'obligation des cinq prières, qui sont les meilleurs, le meilleur devoir après la foi. Mais il n'est pas permis de croire que Dieu serait une lumière, qu'il aurait vu cette lumière, comme des faux hadiths que citent certaines sectes. Donc c'est des hadiths mensongers, parce que les versets du Coran et les hadiths ne contredisent pas les versets clairs que Dieu dit "Olam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad", il n'a pas d'équivalent. Dieu, non, laisa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Et la raison saine catégorique confirme que le créateur de l'univers, il n'a aucune ressemblance avec les créatures. Les créatures, c'est des corps palpables, comme les pierres, les plantes, les humains, les corps impalpables, comme l'air, l'obscurité, la lumière, et leurs caractéristiques, le mouvement, l'espace, le temps, le goût, le contact, la séparation. Dieu est exempt de tout cela. Comme il a dit l'imam al-Tahawi, le grand savant musulman qui a plus de 1000 ans, il dit « وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ » Et quiconque attribue à Dieu un des sens des humains, certes est devenu mécréant. Et il a dit aussi que Dieu est exempt des limites, des membres, des fins, des organes. Il n'est pas contenu par les six directions comme le sont l'ensemble des créatures. Donc voilà, donc un aperçu sur le sens des miracles et ce grand miracle de l'Isra ou le Mi'raj, qui est un miracle confirmé par les textes clairs religieux et parmi les choses qui sont arrivées, étonnantes, qui sont arrivées au prophète. Et il est arrivé à un endroit élevé après le 7e ciel. Et là, il a reçu l'obligation des cinq prières pour montrer leur importance, en fait. Pour montrer leur importance. Mais Dieu existe avant l'espace, le temps. Il n'est pas quantifié, il n'est pas localisé. Rien n'est tel que lui. Rien n'a de ressemblance avec lui. Donc ça, c'est la croyance de tous les prophètes. C'est important de s'attacher à cette croyance, car c'est la base. Et celui qui contredit cette croyance-là, il n'a pas d'excuse le fait qu'il a contredit la raison. Même s'il a lu... Parce que de nos jours, il y a des gens, ils lisent à droite, à gauche des fausses traductions, des applications et des traductions, ou sur Internet. Là, c'est pas une excuse pour la personne d'être trompée comme ça. Parce que le fait, elle a la raison, elle est responsable. Quelqu'un qui est fou toute sa vie, il ne rend pas des comptes, il va au paradis. Mais quelqu'un qui a la raison, il croit une croyance contraire à la raison, ben, il n'a pas d'excuse. S'il meurt sur ça, avant d'être corrigé, de revenir à l'islam par les deux témoignages, lui, il va rester éternellement en enfer. La seule solution pour lui, c'est de délaisser la mauvaise croyance et de dire des témoignages. Donc c'est important de rappeler ces règles parce que ça arrive, les gens commencent à lire les traductions, ils nous posent des questions, récemment d'ailleurs ici on nous pose des questions sur ces sujets-là, et ça peut arriver autour de vous, et c'est important de conseiller la personne, quiconque qui l'a cru au sujet de Dieu, l'espace, l'attribut de Dieu, l'endroit, Lui, en fait, sa narration n'était pas valable. Il doit délaisser cette mauvaise croyance et prononcer les deux témoignages pour être vraiment sur l'islam, pour que sa narration soit valable. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad, Tahir Amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات